VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. La guerre contre Boko Haram, un mois après l'engagement des troupes tchadiennes dans la lutte contre le groupe islamiste nigérian, la principale route menant à N'Djamena via le Cameroun, vitale pour l'économie du Tchad enclavé, n'est toujours pas sécurisée. C'est ce qu'affirme l'AFP, citant des responsables camerounais. Au Nigeria, une foule a lynché puis brûlé hier à Bauchi dans le nord-est du pays une jeune femme soupçonnée de vouloir se faire exploser dans un marché. Tactique attribuée à Boko Haram dans les attaques contre les gares routières et les marchés notamment. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP la police et des témoins. La jeune femme avait refusé de se laisser fouiller à l'entrée du marché en question. Au Niger, les attaques de Boko Haram dans le sud-est du pays ont non seulement déplacé les populations, mais aussi provoqué un afflux de blessés, notamment dans l'hôpital régional de Difa. Le point avec Oumarou Dadi Rabiou de la Croix-Rouge internationale.
Dès les premières confrontations armées, la première urgence sur laquelle le CICR a dû se poser, c'était l'urgence médicale. Mais fort heureusement, ça fait déjà plusieurs mois que nous travaillons avec l'hôpital régional de Difa. C'est l'hôpital de référence de toute la région. Et nous avions renforcé notre stock en médicaments et en consommables médicaux. Nous avions aussi participé ensemble avec le personnel de l'hôpital à des échanges d'expériences avec les équipes du CICR sur les techniques de prise en charge de blessures de guerre. À l'heure où nous parlons, l'hôpital a déjà pris en charge 110 blessés par balle et aussi à la suite d'explosions.
Oumarou Dadi Rabiou du CICR, joint à Niamey par Camille Gros-Didier. Au Tchad, l'ONG Droits de l'Homme sans frontières tire de nouveau la sonnette d'alarme concernant le phénomène d'enlèvement d'enfants contre rançon qui terrorise la population de la région de Mayo-Kébi-Ouest. L'ONG déplore le manque d'action des autorités locales et nationales face à la situation. Le point avec deux hommes, Daniel Passalet, président de Droits de l'Homme sans frontières, au micro de Timothée Donangmaï.
Entre le 18 et le 19 février, il y a eu une prise des enfants contre rançon dans la région de Mayo-Dala, donc exactement au sud-ouest du Tchad. Or, c'est un phénomène qui date de plusieurs années et avec le drame de Matalere, que tous les Tchadiens connaissent d'ailleurs, on a cru que le problème est définitivement réglé. Or, non, à notre grande surprise, on vient d'apprendre qu'il y a encore des enlèvements contre rançon.
Qui enlève ces enfants?
Difficile de dire qui enlève. Parce que ces gens, ils bénéficient de beaucoup de complicité. Ces complicités même pourraient être parmi les autorités. Et on a attiré l'attention du gouvernement central sur cette question afin qu'une enquête sérieuse puisse être menée. Ils ne le font jamais. Et généralement, on essaye de se fier au rapport que ces autorités militaires administratives envoient. Or, ces gens-là, pas toutes, mais certaines autorités sont véritablement impliquées. Par exemple, vous prenez certaines autorités qui avaient été sanctionnées à son temps. Ils ont suspendu. Et quelques années plus tard, ils reviennent, ils nous prennent de fonction plus haute que celle qu'ils occupaient avant.
De Zombé, Daniel Passalet, président de Droits de l'Homme sans frontières, à N'Djamena. Pour parler intermalien à Alger, retour des délégations aux négociations en Algérie. L'accord de paix a été paraffé par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion qui a réclamé un délai. Pourtant, à Bamako, il y a une vive opposition au projet d'accord. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est au cours d'une conférence de presse que le collectif des ressortissants du nord du Mali a donné son avis sur le projet d'accord d'Alger. Maître Malik Ibrahim, porte-parole du COREN.
Dans le document, il est écrit que l'Azawad est une réalité socio-culturelle, mémorielle, symbolique, partagée par une communauté du nord faisant partie de la nation du Mali. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation.
Face à la situation, le premier ministre malien a réuni la classe politique, opposition et majorité, la société civile, afin de donner la version du gouvernement malien. Modibo Keïta, premier ministre du Mali.
Mais je dois vous avouer qu'après avoir pris connaissance de cet accord, le gouvernement a noté que les préoccupations essentielles ont été sauvegardées dans ce projet d'acte. C'est dire qu'elles sont applicables à toutes les régions du Mali, pas seulement aux régions du Nord.
Et si tout va bien, c'est le 16 mars prochain que le projet d'accord sera signé au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria s'engagent à mettre fin à l'épidémie avant la fin du mois. Mais la tâche ne sera pas facile en Guinée, où certaines populations continuent de faire preuve de méfiance à l'égard des équipes combattant la maladie. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
quelques jours de l'objectif zéro Ebola en 60 jours, une vingtaine de cas confirmés sont traités dans les différents centres du pays. Les nouveaux foyers proches de Conakry constituent de nouveaux défis. Folita Cecilia est responsable du service communication de la Coordination nationale de lutte contre Ebola.
Aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas l'épidémie d'Ebola, c'est l'épidémie de la réticence, je peux dire même de la rébellion de certaines populations. Sachant très bien la rapidité de contamination, les populations refusent catégoriquement et s'attaquent à nos équipes de prise en charge ou de sensibilisation.
La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 1500 personnes en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Sénégal, les professeurs de 5 universités sont en grève. Au cœur de la dispute, la réforme de l'enseignement supérieur rejetée par les professeurs, qui est basée sur une proposition venant de la Banque mondiale. Des précisions avec Idrissa Ba, porte-parole du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, au micro de notre envoyé spécial à Dakar, Idriss Fall.
Il y a de cela quelques années, nous avons reçu à l'université Cheikh Diop de Dakar des fonctionnaires de la Banque mondiale. Ils avaient procédé à un diagnostic qui constituait en quelque sorte à dire que les universités coûtent trop cher à l'État, qu'au fond nous n'avons pas besoin d'études aussi longues, que certaines filières sont inappropriées par rapport à notre économie et que par conséquent il fallait remettre tout cela en cause. Et que l'État, pour des raisons que nous ignorons, mais qui très certainement sont liées à la disponibilité des capitaux octroyés par la Banque mondiale, donc l'État est en train d'appliquer cette politique-là.
Idrissa Ba, porte-parole du SAES à Dakar. Et puis le secrétaire d'État américain John Kerry a défendu Israël au Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme aujourd'hui à Genève. Initiative qui intervient alors que le Premier ministre israélien entame une visite controversée aux États-Unis cette semaine. Benjamin Netanyahu s'adressera demain à une réunion conjointe des deux chambres du Congrès à Washington, réunion organisée par le président de la Chambre des représentants John Boehner, sans concertation préalable avec la Maison-Blanche, Timothée Donormaï.
La Maison-Blanche n'a pas apprécié l'entorse au protocole et quelques législateurs américains prévoient de boycotter le discours de M. Netanyahu. En Israël même, des voix s'élèvent contre sa visite à Washington peu avant les élections israéliennes de ce mois-ci. Moshe Rosman est un habitant de Jérusalem. Vous avez des membres du Congrès qui boycottent le Premier ministre d'Israël. Des faits sans précédent qu'il sera difficile d'inverser. C'est bien évidemment une manœuvre électorale qui n'a rien à voir avec la sécurité d'Israël, dit-il. Le chef du gouvernement israélien n'est pas de cet avis. Je crois en la solidité des relations avec les États-Unis et à travers elles, nous surmonterons ces différences, de même que celles à venir. En tant que Premier ministre d'Israël, il est de mon devoir de veiller à la sécurité d'Israël et c'est pourquoi nous sommes fermement opposés à l'accord en cours de discussion entre l'Iran et les puissances, a déclaré M. Netanyahu, ajoutant qu'un tel accord mettrait en danger l'existence même d'Israël.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain John Kerry a eu des consultations aujourd'hui à Genève avec son homologue russe Sergei Lavrov. Les discussions ont porté, entre autres...
ouvrira en mai sa première chocolaterie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, indique Jeune Afrique, citant une déclaration du PDG du chocolatier français Patrick Poirier au Salon international de l'agriculture de Paris. Avant de produire du chocolat, l'usine produira de la poudre de cacao et de la pâte à tartiner pour le marché sous-régional. Selon Hervé Assar, représentant de la Banque mondiale au Togo, l'Afrique est le continent qui réforme le plus en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. C'est ce qu'a déclaré le fonctionnaire international à l'ouverture du forum Africa Best Practices qui s'est tenu à Lomé du 26 au 28 février. Il a rappelé la forte progression du Togo, troisième meilleur réformateur au monde, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, indique la revue Financial Afrique.
Il s'agissait de Nathalie Barge qui nous parlait de la minute économique. On revient au secrétaire d'État américain John Kerry. Il a eu donc des consultations à Genève avec son homologue russe Sergei Lavrov. Les discussions ont porté entre autres sur le conflit en Ukraine. Et le chef de la diplomatie américaine a déclaré au Conseil de l'ONU pour les droits humains que des hommes, des femmes et des enfants sont tués, torturés et violés dans le conflit ukrainien. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.
«
Soyez au cœur